Chapitre 18 L'exécution. Farrington et le docteur Fall s'entretenaient ensemble, toutes portes fermées, dans le cabinet de travail du docteur. En juger d'après la physionomie soucieuse de Fall et aux gestes de colère de Farrington, quelque événement inattendu était venu bouleverser leur plan. « Vous êtes sûr de tout cela ?»«
Parfaitement sûr, » répondit Fall. « Il a fait tous ses préparatifs pour quitter Londres. Ses malles ont déjà été expédiés à Paris. Il a résilié son bail de location et a chargé un négociant de revendre ses meubles. Il nous a trahis. »«
Mais il n'aurait jamais osé !» s'écria Farrington, les veines du front gonflées à se rompre, et en proie à une rage dont il n'était presque plus maître.
« J'ai tiré cet homme du ruisseau, Fall. C'est un chien galeux que j'ai sauvé. Je l'ai pardonné une fois. Il sait à quel prix et à quelles conditions. Non, il n'a pas osé. »«
Hélas, dit le docteur, je crois qu'au contraire, il était capable de tout. C'est une affaire de race et de tempérament. Tout miel d'un côté et la haine dans le cœur. Sans parole. »
Vous dites qu'il n'est pas capable de vous trahir, mais c'est un homme prêt à vendre son frère, sa sœur, sa mère. Je vous avais en garde contre lui, Farrington. Si vous m'aviez écouté, il ne serait plus jamais sorti d'ici.
Farrington secoua la tête.
Mais c'est dans l'intérêt de Doris que je l'ai laissé aller.
Mais oui, répéta-t-il en voyant une lueur de surprise dans les yeux de Fall.
Il me fallait quelqu'un qui me craigne pour faire aboutir mes projets. Le mariage de Doris était nécessaire.
Oh, excusez-moi, mais je crois que vous avez fait du sentiment dans cette affaire.
Farrington poussa un juron. Bon, je n'ai que faire de votre opinion, dit-il. Vous ne comprendrez jamais mon affection pour cet enfant. Son père était mon ami intime et il me l'a confié en mourant. J'avoue qu'au prime abord, j'ai été tenté de m'emparer purement et simplement de sa fortune. Mais à mesure que les années passaient, j'éprouvais un sentiment tout nouveau pour moi, une sorte de tendresse pour cette petite. Et j'en vins à l'aimer plus que l'argent même, et c'est beaucoup dire. Je voulus agir correctement vis-à-vis d'elle, et quand, par suite de mes opérations malheureuses, j'en fus réduit à emprunter sa fortune, c'était dans l'intention bien arrêtée de la lui restituer. Mais lorsque, au contraire, tout m'a manqué, poursuivit-il d'une voix plus basse et altérée, lorsque j'ai vu que j'avais ruiné la seule créature au monde que j'ai jamais aimée, alors j'ai commis celui de mes crimes pour lequel j'ai le plus de remords. J'ai fait disparaître George Houghton afin de marier Doris à son fils, c'est-à-dire au seul héritier des millions de Tollington. Je savais que c'était lui. J'ai tué un homme pour sauver Doris. Ah, quelle ironie ! S'écria-t-il avec un rire lugubre. Quelle comédie ! Quant à Poltavo, reprit-il, je l'ai laissé aller parce que j'avais encore besoin de lui. Peu importe ce sale individu. Doris est mariée, et si elle n'aime pas encore son mari, elle l'aimera un jour. Il est digne d'elle. Je connais Doris, je sais ce qu'il y a de beau et de grand dans son âme. Elle m'oubliera et sera heureuse. Oh, puisse-t-elle m'oublier vite !
Il détourna la tête et changea de sujet.
Avez-vous eu des nouvelles de Poltavo ce matin ?
Non, répondit Fall. Notre agent m'informe seulement qu'il combine quelques gros coups dont il n'a pas daigné nous informer.
Oh, si jamais il joue double jeu!
Alors, que voudriez-vous faire? Il est hors de notre portée. À ce moment, une sonnerie de téléphone retentit.
Le guetteur de la tour? S'étonna Fall. Mais qu'est-ce qui arrive?
La grande bâtisse carrée était surmontée d'une tour au sommet de laquelle un veilleur se tenait jour et nuit. Fall alla décrocher le récepteur et écouta. Il ne répondit que par monosyllabes, puis raccrocha et revint à Farlington. Poltavo est à Bradley, dit-il. Un de nos hommes l'a vu et a signalé la chose ici.
À Bradley, mais qu'est-ce qu'il y vient faire?
Probablement la même plaisanterie que l'autre jour, quand il a essayé d'enlever Downton. Il veut attirer les soupçons sur nous. La sonnerie retentit de nouveau. Fall conversa encore quelques secondes à voix basse avec le guetteur.
« Ben, il paraît, annonça-t-il ensuite à Farrington, que Poltavo est sorti du village. Il se promène d'un air désœuvré sur les dunes. Avec sa longue vue, notre veilleur a vu un autre individu se diriger prudemment vers lui.
« Allons voir nous-mêmes, déclara Farrington. Ils passèrent dans une autre pièce, y ouvrirent ce qui semblait être la porte d'une simple armoire, mais qui donnait en réalité sur un des nombreux ascenseurs électriques dont l'étrange maison était si abondamment pourvue. En quelques secondes, l'ascenseur les amena au sommet de la tour, à la cage vitrée où un puissant télescope monté sur un fort trépied permettait au regard de fouiller le pays jusqu'à l'horizon.
« Regardez dans cette direction, » dit le guetteur.
Sans hésitation, Farrington reconnut Poltavo. Mais qui donc était l'étranger à barbe blanche qui venait lentement à sa rencontre? Le docteur Fall, l'œil à l'objectif d'un autre télescope, crut deviner.
« Oh, c'est l'intermédiaire, » dit-il.
Ils assistèrent ainsi de loin à tous les détails de la rencontre, virent l'échange des lettres et l'attitude triomphante de Poltavo. Mais soudain, Farrington poussa un cri. Il avait vu l'inconnu bondir sur Poltavo, le jeter à terre, et l'acier des menottes jeter un bref éclair.
Ah, le voilà pris! Oh, mais va-t-il nous vendre?
Oh, il nous vendra, soyez-en sûr, dit Fall. Il faut voir ce qui arrive. Si on le conduit en prison, nous avons tout à craindre.
Je ne vois aucun policier, dit Farrington. Attendons.
Ils suivirent des yeux la marche de Smith et de son prisonnier. Puis Fall s'écria.
Ah, on dirait qu'ils vont au cottage.
Quelle farce! Leurs yeux se rencontrèrent.
Impossible, fit encore Farrington, mais une lueur d'espoir brillait dans ses yeux.
« Oui, 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 ils entrent dans le pavillon !» cria Fall au bout d'un instant. « Allons vite !» En un instant, les deux hommes furent dans l'ascenseur qui les descendit à toute vitesse dans les sous-sols. De là, ils suivirent un long corridor voûté où des ampoules électriques brillaient de distance en distance. Ils passèrent devant une porte à leur gauche.
« Oh, il faudra nous débarrasser d'elle !» dit Farrington en regardant de ce côté.
« On verra, » répondit laconiquement Fall. Au bout du corridor, il y avait une forte porte de fer qui donnait sur une salle obscure. Fall tourna un commutateur qui remplit la pièce de clarté. Dans un coin se trouvait la porte d'un autre ascenseur. Ils le prirent et descendirent longtemps, longtemps, comme s'ils allaient jusqu'au centre de la terre. Enfin, l'appareil s'arrêta cependant, et les deux hommes sortirent dans une galerie creusée dans le roc. Cette vieille galerie de mine était également éclairée à l'électricité, et des rails y étaient posés. Près de l'ascenseur se trouvait un wagonnet à trolley. Ils y montèrent, et à grand bruit, le moteur se mit en marche. La petite voie ferrée suivait la galerie, qui montait, descendait, tournait à droite et à gauche, selon les couches rocheuses dans lesquelles elle était percée. Le wagonnet s'arrêta enfin dans une sorte de rotonde, au fond de laquelle se trouvait l'inévitable ascenseur.
« Montons lentement, » dit le docteur Fall à mi-voix. « Il ne faut faire aucun bruit. N'oublions pas que nous avons affaire à Smith. »
Lorsque l'ascenseur s'arrêta, les deux occupants ne bougèrent pas. Ils pouvaient entendre des voix dont l'une était indubitablement celle de Poltavo. De Poltavo qui, précisément, offrait de les trahir. Bientôt, le bruit de l'auto amenant les agents de police parvint jusque dans la cage de l'ascenseur. L'oreille collée à la porte, les deux hommes se rendirent compte de la sortie momentanée de M. Smith. Alors Foll pressa un bouton et un panneau de bois s'ouvrit directement dans le salon où attendait Poltavo. Celui-ci n'aperçut ses visiteurs inattendus que lorsqu'ils furent presque sur lui, et ce qu'il lut dans leur regard sinistre n'était rien moins que son arrêt de mort. « Que me voulez-vous » fit-il en un souffle. « Taisez-vous !» répondit Farrington en lui mettant la pointe d'un stylet sur la gorge. « Où voulez-vous me conduire ?» demanda encore le prisonnier devenu livide. « Nous allons vous mettre dans un endroit où il ne vous sera plus possible de nous nuire !» dit Foll. À l'horrible sourire de cet homme, Poltavo comprit ce qu'il attendait, et oubliant la pointe acérée qui griffait déjà sa gorge, il poussa un cri. Mais des mains puissantes étouffèrent son ultime appel, il reçut un coup violent sur la tête et perdit momentanément conscience. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il se trouva couché entre les jambes de Farrington dans le wagonnet qui courait à toute vitesse sur la ligne souterraine. Il n'esquissa pas un mouvement, ne prononça pas une parole, se laissa hisser à l'arrivée dans l'ascenseur et enfermé dans une des pièces s'ouvrant sur le long corridor des caves de la maison magique. Laissé seul, il reconnut la pièce où il avait déjà été enfermé une fois. Oui, c'était bien la même table, le même lit, le même fauteuil vissé au sol. En tout cas, il était hors des mains de la police. Mais qu'est-ce que Farrington et son acolyte prétendaient faire de lui? Quel subterfuge employé pour les induire en erreur? Quelle excuse leur donner? Ils avaient dû entendre ses offres de trahison. Il maudit son imprudence. Il aurait dû attendre d'être à Bradley pour parler. Il savait bien qu'il y avait un mystère attaché à Moor Cottage. Aucun moyen de fuir. Il fallait attendre le bon plaisir de ces geôliers, qui pouvaient être à leur gré ses bourreaux. Il les avait trompés, c'est vrai, mais s'il n'y avait rien de plus terrible que son emprisonnement actuel, il pouvait avoir encore quelque espoir. Il avait déjà été enfermé là, et il avait pu en sortir. Cependant, quelque chose lui disait que cette fois, les forces diaboliques et obscures de la maison magique étaient toutes liguées contre lui. Il n'avait qu'un espoir, oh, fort léger en vérité, c'était que le chef de la sûreté eût découvert par où on l'avait enlevé et ait suivi le même chemin jusqu'au souterrain de la maison magique. Certes, il eût éprouvé un grand soulagement à passer des mains de Farrington à celles de la police. Évidemment, les habitants de la maison magique n'étaient pas tranquilles. Poltavo entendait de moment en moment des roulements sourds, des grincements de machines, des cliquetis métalliques, comme si une armée d'ouvriers avait envahi les appartements voisins. Il n'attendit pas fort longtemps. L'ascenseur illuminé s'arrêta tout à coup devant la porte grillée et le docteur Fall en sortit. « Le chef de la police perquisitionne dans la maison, lui dit-il. Il va descendre dans une minute. Je suis donc obligé de vous laisser connaître un de nos secrets. » Il prit rudement Poltavo par le bras et le mena dans un coin de la chambre qui n'offrait aucun aspect spécial. Mais il toucha du pied ou de la main quelques boutons électriques, car toute une section de la paroi s'ouvrit. Il poussa Poltavo dans un étroit passage voûté, au bout duquel était une petite cellule où il enferma son prisonnier. Quelques instants plus tard, M. Smith, entrant dans la pièce qu'il avait déjà visitée lors du premier emprisonnement de Poltavo, n'y vit rien d'anormal. Rien, en tout cas, qui décela la présence récente de celui qu'il cherchait, et il se retira.
Le séjour de Poltavo dans son cachot dura longtemps. Malgré l'exiguïté de la cellule, il pouvait respirer facilement. Un ventilateur lointain envoyant jusque-là de l'air frais par des tuyaux invisibles. Enfin, la porte se rouvrit. On l'appela et il revint à la grande pièce souterraine. Cette fois, Farrington et l'ouvrier italien borgne que Poltavo avait aperçu déjà lors de sa précédente visite, accompagnaient le docteur Fall. En rentrant là, Poltavo vit quelques changements avaient été opérés dans la pièce. Notamment, toutes les chaises et la table avaient été éloignées d'un grand fauteuil vissé au sol. Et justement, Fall et le mécanicien borgne, qui s'assuraient apparemment de la solidité des écrous du fauteuil, s'emparèrent de Poltavo et l'y firent asseoir. « Mais que voulez-vous faire ?» demanda Poltavo, blanc comme cendre. « Bon, vous le verrez assez tôt. » On l'attacha sur ce siège, les avant-bras et les poignets solidement ligaturés au bras du fauteuil, et ses chevilles également bien appliquées aux pieds massifs et métalliques du meuble. Poltavo cherchait à deviner les sentiments de Farrington, qui, debout, bras croisés, face de marbre, surveillait l'opération. Alors Fall se baissa et se mit à déchirer les bords du pantalon de Poltavo comme pour mieux lui faire sentir le froid du métal. « Qu'est-ce qui vous prend ?» demanda le prisonnier. Personne ne lui répondit. « Mais que prétendait-on lui faire ?» Les deux hommes écartèrent le tapis et remontèrent jusqu'aux pieds de Poltavo de curieux instruments. Ils lui serrèrent les poignets, les mollets entre des pinces arrondies qui s'appliquaient au-dessous de l'armature métallique d'un fauteuil. À ce moment-là encore, Poltavo ne comprit pas ce qui se préparait. « Monsieur Farrington, dit-il, écoutez-moi, je sais que j'ai perdu la partie. »«
Oui, dit laconiquement Farrington.
« Laissez-moi de quoi quitter le pays, juste avec ce que j'avais sur moi, et je vous promets que vous n'entendrez plus jamais parler de moi. »«
Mon ami, répondit froidement Farrington,
j'ai eu trop longtemps confiance, ça ne prend plus. Vous avez cherché à vous imposer à un moment où je n'avais nul besoin de vous, et puis vous m'avez lâché et trompé à chaque pas, et j'ai la ferme intention de vous empêcher de recommencer. » « Mais au nom du ciel, qu'allez-vous faire ?» s'écria Poltavo, comble de l'angoisse. Il venait d'apercevoir les fils qui reliaient les pièces métalliques du fauteuil à des fiches plantées dans la paroi. Il poussa des cris de rage et de terreur folle en saisissant enfin le projet de ses ennemis.
« Dieu, mais vous voulez me tuer ?»
« Oui, et sans douleur, répondit doucement Farrington. Votre existence vous importune. Nous ne vous imposerons pas des souffrances inutiles. Mais vous voici arrivé au terme de votre carrière terrestre, Poltavo.
Mais vous allez m'électrocuter, mais Farrington, vous êtes fou. C'est impossible, non, non, de grâce. Donnez-moi un pistolet, une arme, battons-nous loyalement. » Vous n'allez pas m'assassiner. Grâce, pitié, faites de moi ce que vous voudrez. Livrez-moi à la police. Farrington, je vous en supplie. »
Mais le docteur Fall alla prendre sur une table un casque qu'il plaça sur la tête du condamné.
« Pas cela, Farrington, » continuait à gémir Poltavo d'une voix étouffée par son masque. « Non, non, je jure de vous obéir comme un esclave. »
Farrington leva la main et le docteur Fall alla se placer auprès d'un grand commutateur noir.
« Je serai fidèle, demandez-moi l'impossible, non, non !»
Fall tourna le commutateur et la mort interrompit ses supplications. Le cadavre eut une légère contraction des mains. Farrington fit un signe et le docteur interrompit le courant. Rapidement, ils délièrent le corps, ce qui avait été une créature faite pour agir, penser, aimer, s'écroula comme une masse inerte sur le sol. Farrington considéra le cadavre de son ex-complice d'un œil sombre et haussa les épaules. Il ouvrait la bouche pour dire quelque chose à Fall qui retirait les fiches du mur, lorsqu'une voix impérieuse les fit tous trois sursauter. « Oh les mains !» La porte donnant accès aux galeries de mine s'était ouverte sans bruit, et sur le seuil parut M. Smith, suivi d'Ella, revolver à la main.